Et tel que promis, pour la première fois en 2020, nous accueillons aux amateurs de sport notre ami Daniel Brière. Salut mon Daniel!
Salut Mario!
Comment ça va?
Très très bien, merci. Toi-même?
Oui, ça va bien, je te remercie. Ça va très très bien. Ça va moins bien un petit peu pour notre équipe de hockey, comme tu es sûrement au courant. Te souviens-tu d'avoir vécu, toi, dans ton vécu de joueur, ou de, tu sais, une année qui devient aussi difficile, 2 fois 8 défaites de suite, là? Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça, en tout cas avec le Canadien, là.
Non, écoute, je me souviens pas d'avoir vécu ça 2 fois dans la même année. J'ai vécu une séquence là, de 10 défaites à une reprise où je me souviens avec les Flyers qui a été très, très difficile à passer au travers, mais ça, là, 2 fois dans la même saison, ça, c'est pas facile. Puis je t'avoue que j'étais moins inquiet la première fois parce que ça arrive à toutes les équipes, même des fois des bonnes équipes se cherchent un petit peu. Ça arrive pendant la saison où les choses marchent moins bien, puis ça m'inquiétait moins là, quand c'est arrivé. Je crois que c'est à la fin novembre ou décembre que, la première fois. Mais là, cette séquence-ci me fait très, très peur pour le Canadien. Parce que je regardais aussi alentour du Canadien, quand tu regardes les autres équipes de leur division, des équipes comme écoute, Boston aussi qui vont très bien, mais là, le Lightning s'est replacé. Les Maple Leafs de Toronto se sont replacés. Les Panthers de la Floride jouent quand même du très, très bon hockey aussi. Tu regardes dans la conférence, Pittsburgh s'est replacé également. Fait que ça devient très, très difficile pour le Canadien là, quand t'en perds comme ça 8 de suite. Puis là, tu vois les autres équipes avancer des fois de 8, 9, 10 points sur toi. Là, ça fait mal.
Ça fait mal, certain. Dans l'Atlantique, honnêtement, au début de l'année, je pense qu'on s'imaginait pas mal tout ça dans l'ordre ou dans le désordre. Boston, Tampa Bay, Toronto, c'était comme à moins d'une grosse, grosse malchance. On savait que c'était ça. On s'est dit, bon, OK, Canadien, 4e as. Mais là, même 4e as, tu vois, actuellement détenu par Philadelphie à 52 points. Le Canadien en a 43. T'es pas loin de 10 points d'écart, puis t'as joué un match de plus, là. Fait que ça devient décourageant. Les gars parlent de l'importance, Philippe Danault a insisté là-dessus, l'importance de rester unis. Je sais pas c'est quoi ton souvenir de la séquence des 10 défaites à l'époque avec les Flyers, mais c'est quoi les dangers qui guettent? Je parle pas là autour de l'équipe, je parle dans l'équipe. C'est quoi les dangers qui guettent l'équipe?
Ben les dangers, c'est qu'on commence à se pointer du doigt dans la chambre, un et l'autre. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui rend se sortir d'une léthargie comme ça, c'est ça qui rend ça difficile parce que les joueurs commencent à se pointer du doigt. Ah ben écoute, moi j'ai fait mon travail, c'était à toi de faire ça. Puis ça devient, c'est là que ça devient dangereux parce que l'esprit d'équipe aussi est pas à son meilleur. Est-ce que tu vas aller te battre pour le gars qui t'a pointé du doigt, soit dans les journaux, dans les médias ou soit devant les coéquipiers dans la chambre. Fait que c'est ce côté-là qui devient dangereux puis qui devient difficile là, de se rapatrier ensemble pour dire OK, on se replace s'asseoir que ça finit. C'est pour ça que un bon groupe de leaders devient très, très important.
Et entre joueurs publiquement, je pense que tout le monde s'épargne, là, donc il n'y a pas de procès d'intention. Maintenant, pour une rare fois cette année, lui qui a été d'un calme légendaire, Claude Julien était un peu à bout de patience l'autre soir quand il a dit ceci.
Tu connais le hockey? Tu sais c'est quoi un commitment? Tout simple que ça.
Parce que on le questionnait sur ce qu'il voulait dire. Quand un entraîneur parle d'un manque de commitment, qu'est-ce que tu entends comme message? Puis ça rebondit comment dans la chambre?
Ben, pour moi, ça veut dire que peut-être pas tous les joueurs, mais beaucoup des joueurs sont pas prêts à sacrifier pour le restant de leur coéquipier, que ce soit pour bloquer des lancers, que ce soit pour jouer de la bonne façon, que ce soit pour limiter les revirements. En zone neutre. Il y a plein d'exemples comme ça peut être des pénalités, mais il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est que les joueurs se foutent un peu de si ils vont gagner ou non. Ce qui est le plus important, c'est leur fiche personnelle. Moi, c'est un peu là, ce que j'en ai pris des commentaires de Claude Julien quand j'ai entendu ça.
Wow. Et il a même fait allusion à la préparation. C'est pas la même raison pour tout le monde, mais il questionne même la préparation de certains joueurs. Qu'est-ce que tu décodes? T'sais, c'est pas si. T'sais, le gars qui se sent visé, il sait de quoi il parle, mais toi, à quoi tu penses qu'il fait allusion quand il parle de la préparation même?
Ben moi, pour moi, tu sais que ça peut être encore là différents aspects. Ça peut être la préparation en fait en début de match. T'es pas prêt à jouer un match, mais moi, pour moi, la préparation, c'est de savoir à qui on fait face. Dans ta préparation, tu dois savoir qui t'affronte, quel trio tu penses que tu vas affronter, de quelle façon, parce que tu peux pas jouer de la même façon. Disons que tu joues contre les Bruins de Boston. T'embarques sur la patinoire puis tu fais face à la ligne à Bergeron, Pastrnak et Marchand, tu peux pas jouer de la même façon que si tu fais face à leur quatrième ligne. Donc, si t'es pas prêt, t'as pas fait ta préparation, t'es pas prêt à faire face à ces gars-là ou tu prends de mauvaises décisions justement parce que tu t'es pas préparé.
Ils vont te brûler. Ils vont te brûler. Quelques questions. Écoute, toutes les questions se posent en ce moment dans la situation que vit le Canadien qui va rater les séries vraisemblablement pour une quatrième année en cinq. Et même des questions qui sont plus difficiles. Moi, je te dis ça de même, Daniel. On jase, hein? C'est pas pire jaser comme ça.
On aime ça jaser.
Je te dis pas que c'est mes volontés, mais des sujets qui sont dans l'air. Carey Price a un gros contrat encore, à qui il reste en moyenne 9 millions par année à verser. Il a reçu 30 millions sur son contrat après 2 ans. Donc, après 2 ans, il va y en rester 6. En moyenne, 9 par année. 10,5 sur le cap hit. Si un ou des DG de la Ligue savent ou apprennent que Marc Bergevin est prêt à écouter, est-ce que tu penses que tout le monde se dit « Voyons donc, ça n'a pas d'allure avec le contrat qu'il y a » ou il y a du monde qui dit « Ah oui? »
Ah, écoute, faudrait que ce soit une situation idéale. D'après moi, la majorité des GM, surtout parce que la majorité des équipes font face au cap salarial déjà, je pense pas que les équipes vont être prêtes à prendre un aussi gros risque envers Carey Price. Il reste encore 6 ans à ce contrat-là. Ça peut faire très, très mal éventuellement pour une équipe qui a peut-être de la place pour cette saison, la saison suivante, mais pour 6 saisons, c'est un gros risque à prendre. Moi, je vois pas comment on pourrait bouger ce contrat-là. Si Carey Price est encore aussi bon qu'il l'a été là auparavant, ça pourrait être différent. Mais quand un joueur comme ça a de la difficulté un petit peu, l'équipe est pas capable de gagner alentour de lui, c'est sûr que les GM vont avoir peur d'un contrat comme ça. Donc, je serais très, très surpris qu'il soit capable de bouger ce contrat-là.
C'est pas mal mon opinion. Maintenant, quand on en discute, beaucoup de gens disent ou pensent que les DG de la Ligue regardent Carey Price puis ils disent « Ouais, mais dans le temps, là, Patrick Roy, le monde tatané de Patrick Roy à Montréal, ils vont l'amener d'une autre ligue, d'une autre ville, puis il va redevenir le Carey Price des beaux jours, le gars de 900 ans d'efficacité. Ouais. Il était à tout près de 900. » Penses-tu qu'il y a un DG qui peut envisager le contrat et le Carey Price devant le filet de cette façon-là, en se fiant pas aux stats actuelles, puis en prenant le risque d'amener un contrat comme celui-là, puis dire « Oui, oui, il va être bon, je vous le dis, monsieur le proprio, il va nous faire gagner la Coupe Stanley. »
Oui, le problème, c'est que quand c'est arrivé avec Patrick Roy, on pouvait prendre ces risques-là sans avoir, à couper ailleurs si on avait un propriétaire qui était prêt. À cause du cap salarial de nos jours, là, tu te limites beaucoup. Tu dois couper à d'autres endroits parce que tu es limité. Tu n'as pas de ressources illimitées. Tu sais, quand je pense à des équipes comme que ce soit Toronto, que ce soit les Rangers, que malgré que les Rangers ont déjà un excellent trio de gardiens de but dans le présent, des équipes comme Philadelphie, que ça leur fait pas peur, eux autres, de dépenser de l'argent. Aujourd'hui, ils doivent jouer avec les mêmes règles que tout le monde sous le cap salarial. Donc, c'est pour ça que ça devient un problème différent que ce l'était dans le temps avec Patrick Roy.
Fort intéressant ton point de vue. Et j'imagine que si je change juste de nom avec la même discussion chez Weber, tu vas me répondre un peu de la même façon?
Je te demanderais combien d'années il reste à chez Weber sous son contrat.
Je vais te dire ça tout de suite, mais parle-moi du joueur de hockey. Penses-tu que ce qui est capable d'offrir ça à glace, tu penses-tu que quelqu'un que ça ferait réfléchir de dire oui? Puis même l'autre fois, je disais ça, tu sais, peut-être que les prédateurs de Nashville, quand ils l'ont laissé aller, Weber, peut-être que c'est là que ça leur a coûté la coupe Stanley, mais ça, c'est une autre discussion. Penses-tu que quelqu'un voit Weber comme un gars qui peut leur amener la coupe? Son cap hit est à 7,8 et il lui reste quand même plusieurs saisons, les années de salaire, en argent, ça coûtera pas cher. Puis le restant de son contrat, Nashville doit en avaler une partie, mais son capit est à 7,8. Peut-être que ce serait moins difficile avec lui même qu'avec Carey, mais au côté hockey.
Encore une fois, c'est le nombre d'années qui reste. Pour moi, si j'étais GM, c'est ça qui serait ma première question. Combien d'années il te reste?
Jusqu'à 2025-26, Dan. Mais 1 million par année les trois dernières et 3 millions en 2022-23, ça veut dire 6 millions sur ces 4 dernières années qu'on ne sait pas s'ils vont y jouer.
Ça affecte seulement que certaines équipes, des équipes comme Phoenix, comme les Islanders, qui veulent pas dépenser autant d'argent, sont prêts à prendre des contrats comme ça. Mais je te dirais que la majorité des équipes, quand ils veulent gagner, c'est pas important aujourd'hui là, avec le cap salarial, c'est moins important pour la majorité des équipes. C'est plus le cap hit que les équipes regardent, puis le nombre d'années qui lui reste là à accepter ce cap hit là. Donc, dans le cas de Weber, il y a peut-être plus de chances que Price, justement, parce qu'au lieu de 10,5, c'est 7,8 sur le cap. Mais encore une fois, là, les 6 années qui restent, c'est beaucoup d'années à accepter ça. Ouais.
Maintenant, juste sur des considérations de hockey, du point de vue de Montréal, est-ce que tu as amené Shea Weber pour qu'il implante, ou qu'il contribue à implanter une culture dans ce vestiaire-là? En termes de résultats sur la glace, on peut pas le sentir tellement avec les années que le Canadien connaît, mais est-ce que tu hésiterais à t'en départir pour ces raisons-là?
Ben oui, si Marc Bergevin croit que c'est juste une mauvaise année, que le Canadien va se replacer, puis l'année prochaine va être dans la bonne direction, pour moi, il n'y a pas de doute que Shea Weber est un bon leader. Ce que j'ai entendu dire de lui, de plusieurs coéquipiers, qui ont joué avec lui, que ce soit à Nashville ou Montréal, tout le monde l'adore, tout le monde s'assure pour me dire que c'est un excellent leader. Donc oui, j'aimerais ça garder un joueur comme ça, là, si je pense qu'on peut tourner la page rapidement du côté du Canadien.
Je ne sais pas si tu vas te mouiller, Daniel. Qu'est-ce que tu serais tenté de faire dans la situation actuelle si tu étais aux commandes chez le Canadien de Montréal? Ouais.
C'est drôle que tu me poses la question parce que justement, ça fait à peu près 2-3 jours que je me pose les mêmes questions moi-même. Puis honnêtement, je ne le sais pas. Écoute, je pense qu'un peu comme Claude Julien, je suis certain que Marc Bergevin est très, très déçu de la performance de ses joueurs dans le moment. Mais il faut faire attention. Hein, quand on est dans ces moments-là, c'est là qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Il faut y réfléchir longtemps, il faut être patient. Ce qui est pas toujours facile à faire dans le monde du hockey. Honnêtement, j'ai pas encore ma décision. Ouais, je pourrais pas te dire exactement ce que je ferais de ce côté-là.
On constate une chose cependant, là, c'est beau de décider de faire jouer les jeunes, mais quand on les fait jouer, quand ils sont peut-être pas tout prêts à prendre les bouchées qu'on va leur donner à prendre, je sais que vous tentez d'entrer des jeunes dans l'alignement du côté des Flyers de Philadelphie. Quand je dis vous, là, les gens qui dirigent là-bas, Daniel, ouais. Une organisation que tu vois aller de près, mais ici, ça se fait, puis ça coûte des matchs faire jouer des jeunes qui sont pas prêts.
Ouais. Puis il y a beaucoup du côté des Flyers quand ils ont été frappés par les blessures. Il y a des jeunes qui ont joué beaucoup. Je pense à des Morgan Frost qui a été rappelé, Cassé, Vorobiev et compagnie. Mais il n'y a pas de doute que ça laisse des trous. On l'a vu sur la route. Les Flyers viennent juste de revenir d'un voyage de 6 matchs sur la route où il était 1 victoire, 4 défaites et 1 nul avec un alignement très très jeune. Ça a laissé des marques aussi là, de ce côté-là. Fait que c'est pas facile, surtout d'aller jouer sur la route avec des jeunes joueurs.
C'est pas facile de jouer à maison non plus. Seulement 8 victoires pour le Canadien cette année à domicile. Il y a 2 équipes qui font pire que ça dans la Ligue, Détroit et New Jersey. Daniel, c'est pas facile, je te le dis, je t'en passe un papier. Il va falloir que tu viennes nous consoler, nous remonter le moral bientôt à Montréal. Là.
Ben oui, ça va se replacer.
Dans combien d'années?
Oh boy! J'espère que c'est une question de semaine.
OK. Merci beaucoup, Daniel. Une excellente soirée.
À bientôt, Mario.
À bientôt. Bye bye. C'était notre sympathique collaborateur et ancien joueur de l'LNH, Daniel Brière. On vous revient dans un instant aux amateurs de sport. Et cette fois, on va parler de sport business, un petit peu du Canadien, beaucoup des Alouettes et d'un paquet d'autres sujets. Ray Lalonde après la pause.